Pour ceux qui étaient là ce matin et bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Alors c'était un petit temps de discussion et enfin j'avais proposé un sujet qui finalement en fait est mon sujet de thèse un petit peu plus global et c'était juste pour interpeller sur le fait que justement en fait aujourd'hui on a entendu beaucoup de termes. Les objets connectés, la responsabilité, les assurances, l'éthique, la télémédecine, tout ça. Et en fait, tous ces mots-là, moi je les ai mis dans un grand saladier et j'ai décidé d'en faire une thèse. Donc voilà, c'était pour ça que je voulais vous partager un petit peu cette réflexion et je l'avais un petit peu dit ce matin sur le fait que on parle beaucoup des assurances privées, on parle beaucoup d'économie, etc. Mais on est quand même tous assurés sociaux depuis que vous êtes tout petit, depuis que vous êtes né en fait, étant donné que vos mères, parce que jusque-là, c'est on a beau faire du transhumanisme, jusque-là, c'est quand même les mamans qui accouche encore. Votre maman a été prise en charge. Voilà, vous êtes dès votre naissance, vous êtes dans un système médical. Et tout ce système, aujourd'hui, il repose beaucoup de plus en plus sur un système de prévention. On a entendu le mot télémédecine, parcours de santé. Donc, vous êtes de plus en plus orienté. Et aujourd'hui, le parcours de santé, il repose essentiellement sur votre médecin traitant qui a pour rôle de vous orienter. Et puis quand vous respectez pas trop votre parcours de soins, vous pouvez être sanctionné financièrement. Alors bien souvent, c'est des sanctions, c'est la modulation du reste à charge qui est plus ou moins importante. Mais il y a d'autres... en fait, ça s'inscrit dans un mouvement de prévention, en fait. Pour vous inciter à bien utiliser de votre parcours de santé, mais aussi de responsabilisation. Alors, je ne parle pas de responsabilité. Ce matin, on l'a vu avec Maître Gabory, la responsabilité, c'est quelque chose de très, j'appellerais ça du droit dur. C'est vous avez un dommage, un lien de causalité, donc on engage la responsabilité de quelqu'un. Mais la responsabilisation, en fait, c'est un néologisme, ça vient de l'anglais. Et en fait, c'est basé sur l'empowerment du patient. Cet empowerment, c'est quoi? C'est en fait le pouvoir du patient lui-même d'être acteur. Et c'est ça, en fait, aussi le rôle des objets connectés et de la télémédecine, c'est pas seulement de surveiller vos données et de les vendre à l'étranger et de les vendre aux assurances, c'est aussi que vous soyez patient acteur. Le patient acteur, c'est une notion qui a été consacrée. Donc, au-delà de qu'elle soit consacrée médicalement dans la relation de soins, elle est consacrée par la démocratie sociale. Vous pouvez maintenant être partie intégrante du système, ce qui est en fait la base du système de protection sociale dans les plans de 45, mais qui avait été un petit peu oublié jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et donc, cet objectif... que vous soyez acteur, c'est, on l'a dit, je crois, je sais plus quelle intervention je l'ai entendu, mais j'ai entendu le mot gérer sa santé comme un patrimoine. L'objectif, c'est de gérer sa santé comme un capital et que vous soyez donc patient acteur, que vous fassiez de la prévention pour prévenir de potentiels risques. Mais comme je l'ai dit au début, c'est plutôt dans l'étendue du risque. Je pense aux pathologies chroniques. Les pathologies chroniques, c'est quand même un tiers des dépenses de la sécurité sociale. Donc l'objectif, c'est pas de dire on va prévenir le risque, on va tout faire pour que vous ne vous cassiez pas la jambe. Bon, c'est à la marge, ce genre de choses. Ce qui est important, c'est d'éviter les rechutes qui nécessitent parfois de l'hospitalisation. Les hospitalisations, ça coûte cher. On va de plus en plus vers une médecine de ville et ambulatoire. Et donc, cette télémédecine. Au-delà de résoudre les déserts médicaux, elle répond à cette prévention, à cette volonté d'autonomisation, et c'est pour ça qu'existe la télésurveillance. Et donc, le fait d'être patient-acteur, le fait d'être acteur, ça veut dire être aussi conscient. Il y a de plus en plus de programmes d'éducation à la santé qui sont mis en place par des ARS, par des associations. au niveau de tout ce qui est diabète, vraiment c'est les associations qui sont vraiment les plus au point là-dessus, qui font le plus avancer les choses, et c'est notamment grâce aux associations de diabétiques que la télémédecine a bien été poussée. Et donc cette responsabilisation, on ne peut pas mettre une responsabilité parce que vous êtes sur de la solidarité nationale. Donc, comme je le disais au début, vous contribuez en fonction de vos potentialités. Donc, si vous pouvez rien donner, vous êtes en CMU et pas en complé et en CMUC. Enfin, si vous pouvez pas vous payer vous-même de complémentaire, vous et en lien avec votre employeur, hein, j'entends. Tout ça pour dire oui qu'on est sur un système de solidarité. Donc vous serez toujours soigné, c'est pas là la question. Mais il y a de plus en plus de dépenses de santé avec la chronicisation. Mais si vous pouvez vous-même agir sur votre capital, ça veut dire que vous êtes conscient. Donc qui dit conscience va dire bah, vous êtes responsable de vos actions. Et c'est là tout l'enjeu de la robotique qu'on a vu en début de séminaire aujourd'hui. Pourquoi la question de la responsabilité des robots se pose? Parce que y a des choses qu'on ne maîtrise pas tant dans les faits que dans les connaissances. Quand vous avez les deux intelligences artificielles que Google a créées et qui se parlent entre elles et on ne sait pas comment ils ont fait, ils vont dire bah on est responsable parce que c'est une responsabilité objective, mais dans le fond, quand j'entends de responsabilité, c'est au sens la fonction sociale de la responsabilité. Pensez à la fonction première de la responsabilité qui a été créée en 1804, avant la responsabilité du fait des choses. Le but, c'était de rendre responsables les gens de leurs actions. D'accord? Donc aujourd'hui, avec la maîtrise des dépenses de santé, ça existe déjà. L'objectif n'est pas, le débat n'est pas de savoir est-ce qu'on va ou pas vers une responsabilisation. Elle est déjà. Elle est actée, elle est dans le code de la sécurité sociale et elle est en filigrane, même si elle est moins clairement affichée, mais elle est aussi dans le code de la santé publique. Donc la question, ce n'est pas ça. Les objets connectés et la robotique dans le système de santé ne va pas empêcher ça et va au contraire l'accroître. Parce que, de toute façon, ça va dans l'objectif de réduire les dépenses et d'améliorer la santé. Donc c'est inéluctable. Toute la question, et c'est là où j'amène à poser la question et au débat, et en fait c'était plus pour montrer qu'il y a d'autres sujets qui appellent à une prise de conscience, notamment éthique, en écho avec la présentation qui vient d'être faite, c'est quelle responsabilisation on veut? Comment? Aux États-Unis, on va vous payer je suis allée à Boston et j'ai vu la plus grosse assurance complémentaire et qui en fait donne des trackers d'activité ou qui paye des abonnements de sport à ses assurés. Qui dit mais par contre bah en fait si tu ne l'utilises pas assez parce que du coup vous voyez quand vous badgez pour aller à votre salle de sport on compte vos nombres de passages. Donc le responsable produit m'a dit clairement les yeux dans les yeux avec un grand sourire comme savent le faire les Américains. Bah s'ils le font pas bah on leur retire la contribution qu'on donne pour leur abonnement et puis on modifie le taux de cotisation. Alors bon, en France, on est limité par les règles de discrimination. Donc ce serait peut-être une utopie d'en arriver à ce point-là, mais la responsabilisation est quand même là. Donc comment nous on va le faire? Est-ce qu'il n'y a pas des modèles sur lesquels on peut s'appuyer? Ces assurances qui en fait ont des pôles de soins. Vous avez des parcours de soins spécifiques à votre mutuelle. Donc c'est pas comme en France. Donc vous avez votre mutuelle et vous allez entrer dans un parcours de soins des médecins qui sont dans l'association voilà de la mutuelle. Et donc en plus si vous n'allez pas voir ce médecin-là, là pour le coup vous allez payer plein pot et vous serez pas pris en charge par votre assurance. Donc c'est assez contraignant. Mais en échange, ils ont quand même des centrales téléphoniques où il y a des opérateurs que vous pouvez appeler à n'importe quelle heure et qui vous disent oui votre objet connecté, oui bah on va vous le paramétrer. On a exposé quelques objets au stand et un des projets qu'on a trouvé à l'Ochsner Hospital à la Nouvelle-Orléans, où ils vous paramètrent vos objets, les données sont traitées, etc. Et en fait, votre mutuelle vous accompagne dedans, vous donne des informations, de l'éducation à la santé, du soutien téléphonique, de la télésurveillance, etc. Après, certes, il y a un impact assurantiel, mais est-ce que demain, les mutuelles, elles vont pas pouvoir faire quelques offres comme ça? Vous avez déjà des mutuelles, non, plutôt des assurances, je dirais, pardon, des assurances qui vous remboursent pour partie vos frais de légumes et fruits. En France, ça existe déjà. Je l'ai appris tout juste par hasard en discutant avec une collègue et qui me dit oui, bah moi j'ai un taux de 20-30 € par mois où ma mutuelle ou mon assurance me rembourse mes fruits et légumes. Donc tout ça pour vous dire que ça existe. L'enjeu c'est de savoir comment cette responsabilisation se fait au sein de notre système de sécurité sociale, mais aussi de complémentaire. Et ça, c'est un enjeu assurantiel, de responsabilité, c'est un enjeu d'éthique, individuel et collectif, et que ça peut être bénéfique, mais dans certaines limites. Et donc, pour vous dire que, voilà, j'avais envie de partager ma réflexion avec vous, parce que tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, ben, je alimente toujours plus ma réflexion. Et que ça, pour le coup, ça va être un choix de société. Ça va être un choix de société en tant que citoyen, parce que ça concerne la solidarité nationale et les complémentaires. Mais en plus, ça concerne le plus profond de nous-mêmes, notre aspect humain, notre santé. Et donc, je pense que c'est vraiment une question qu'il faut oser avoir en tête. Et voilà, je terminerai par ça. Merci.
Pour rebondir sur la question de la responsabilisation dont vous parliez tout à l'heure, certes, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être insister, actuellement en tout cas, et faire un vrai travail de fond sur la responsabilisation des professionnels de santé déjà dans un premier temps, qui serait peut-être plus efficace? Et certes, il y a des mécanismes qui sont actuellement en place, mais qui clairement sont inefficaces.
Bah, c'est une très bonne remarque. La responsabilisation du patient eu égard au colloque singulier ne peut pas exister sans une responsabilisation du médecin. Donc, justement, aujourd'hui, j'alertais plutôt sur la responsabilisation du patient, qui est une question qui peut davantage choquer eu égard au fait que la responsabilisation du médecin est posée depuis bien longtemps, mais il va de soi que sans une responsabilisation du médecin et en fait une responsabilisation de la relation et une mise en place d'une réelle éducation thérapeutique, elle ne pourrait pas être envisagée. C'est vrai.
Après, aujourd'hui, il y a un changement de paradigme, en fait, enfin, du moins dans les établissements publics qui est porté par la fédération hospitalière, c'est justement le principe de responsabilité populationnelle. C'est-à-dire que l'établissement ne se place plus, en fait, comme un offreur de soins, mais comme un gestionnaire, en fait, de la santé des gens vivant dans son bassin de vie. Et donc, vous allez avoir, en fait, une approche qui est totalement différente, avec une segmentation de la population par type de patient et par état de gravité, allant du chronique pathologique à la personne qui pourrait développer la maladie. Et à partir de ça, il n'y a plus seulement en fait attendre que la personne vienne dans nos établissements pour lui prodiguer des soins, mais agir déjà dès la prévention, dès l'éducation thérapeutique, agir pour qu'en fait il ne passe pas à l'état, on va dire, de criticité supérieure. Et ça, c'est quelque chose qui a été initialement en fait développé dans des systèmes de santé américains comme Kaiser, Geisinger, Intermountain aussi en Utah, parce que justement ils se sont aperçus. En fait, ils ont des systèmes très intégrés où ils sont assureurs et fournisseurs de soins et enfin voilà, ils ont toute la panoplie. Donc ils pouvaient mettre ça en place à l'échelle d'un État. Et aujourd'hui, donc il y a un Québécois justement qui avait beaucoup travaillé là-dessus, qui est en France, qui est à la Fédération hospitalière et qui porte en fait ça. Et donc on n'est plus sur, on est un offreur de soins et on attend que vous veniez. On est sur, bien évidemment, c'est en train de se mettre en place, hein. On est sur, on va en fait veiller sur la santé des populations et adapter en fait les prises en charge, les programmes allant justement jusqu'à la prévention pour éviter en fait que vous ne tombiez malade, que vous, par rapport à des facteurs de prédisposition, par rapport à des comportements à haut risque ou des choses comme ça, pour éviter que vous développiez la maladie en fait.
Je pense effectivement qu'il faut essayer de responsabiliser les gens, mais on est aussi dans un système où à la fois on peut décider pour soi comme on l'entend, mais on est quelque part pas obligé d'être responsable. Et on voit bien que dans la population, il y a des personnes qui, à partir du moment où on a schéma thérapeutique, en particulier dans les maladies chroniques, où tout est fait pour le suivre au mieux, d'ailleurs que ce soit dans l'éducation thérapeutique en maladie chronique ou que ce soit dans l'éducation de santé. Hein, j'ai vu ce matin sur l'agence, sur la revue de presse, qu'il y a des nouveaux critères par rapport à l'alimentation. Hein, il y a un nouveau conseil qui vient de sortir par rapport à l'alimentation. Donc il y a beaucoup de gens qui le suivent, mais les gens qui ne le suivent pas, quelque part, j'ai bien entendu qu'on essaie de responsabiliser et qu'il y a finalement, on leur demande davantage de choses, mais en réalité, en tout cas dans l'hôpital public, c'est pas si vrai que ça. Hein. Je veux dire, les personnes qui suivent pas un traitement ou qui font pas leurs explorations et tout, le jour où ils arrivent en urgence, on les prendra quand même en charge, comme on prendrait en charge quelqu'un d'autre. Hein. On n'est pas dans le système anglais où, ben, si vous n'arrêtez pas de fumer, si vous n'avez pas ceci ou cela, on vous opérera pas de vos vaisseaux. Hein. On est encore beaucoup plus ouvert. Et du coup, se pose vraiment une question, comment prendre en charge tout le monde, le plus vulnérable, en fonction de ce qu'il a besoin, et d'un autre côté, quand même, de leur demander un minimum de choses. Et là, on est vraiment dans le cas par cas, comment accompagner le patient là où il est pour l'aider justement à vivre sa vie, mais aussi à faire les choses qui sont raisonnables de faire.
La responsabilisation de la victime, enfin, du patient, a aussi ses limites d'un point de vue juridique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop loin, notamment, par exemple, je prends l'exemple des victimes qui sont... Enfin, des patients qui sont victimes d'infections nosocomiales, etc. Parfois, quand on arrive en expertise, l'expert a tendance à dire « Oui, mais attendez, vous fumiez, et on sait que c'est un facteur favorisant les infections nosocomiales. Vous n'avez pas à réduire d'indemnisation parce que vous fumez, parce que sinon vous rentrez dans le mode de vie des gens. Et ça, c'est très compliqué. C'est pas parce que vous fumez que votre indemnisation va être réduite. C'est pas une faute civile, en tout cas pas encore. Si vous buvez 2 verres de rouge par jour, alors que la recommandation c'est 1 ou 1 par semaine ou 3 par semaine, j'en sais rien, on va rentrer dans des débats qui sont très... 2 par jour, c'est pas mal. Mais si vous en buvez 3, on va pas venir vous dire, ou parfois d'ailleurs, on vient vous dire en expertise, oui, vous aviez tendance à boire un peu trop, vous fumiez trop, etc. Mais ça ne doit pas venir réduire une indemnisation. Il y a un moment, responsabiliser, oui, mais attention à ne pas priver non plus une personne de toute sa liberté. Si elle veut s'empiffrer de McDo tous les jours et qu'elle devient obèse, on sait que l'obésité, c'est aussi un facteur favorisant pour certaines infections ou certaines pathologies, on va quand même la soigner. Et s'il y a une erreur médicale sur un obèse, eh bien, même si un obèse, parfois, c'est plus difficile à soigner, eh bien, on va quand même l'indemniser, même s'il est obèse. Parce que, à trop vouloir responsabiliser, en tout cas, attention à pas non plus restreindre trop les libertés. On fait encore ce qu'on veut de son corps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça ne gêne pas les autres, eh bien, si on veut passer son temps à s'enivrer, après tout, c'est le problème. Et il faut faire attention à cela, en tout cas en droit, à préserver les libertés publiques, parce qu'on ne doit pas non plus vivre dans une société complètement aseptisée. Sinon, si on est tous pareils, mais ça n'aura plus aucun intérêt, on sera tous d'accord, ce sera le colloque le plus inintéressant du monde, on sera tous d'accord, personne ne va s'engueuler, pardonnez-moi l'expression, mais il n'y a rien de plus emmerdant que ça, pardonnez-moi, mais il faut vraiment qu'on puisse vivre et qu'on puisse aussi avoir ses propres choix de vie sans que quelqu'un vienne vous le reprocher derrière.
Et c'est la problématique des technologies de tracking, c'est qu'il n'y a jamais le contexte en fait. Parce que quand vous dites qu'il faut que vous fassiez 10 000 pas, mais il y en a, ils font 10 000 pas, ils sont en situation d'obésité, ça a un impact en fait sur leurs articulations, faire 10 000 pas, ce n'est pas forcément une bonne chose. D'ailleurs, la viabilité scientifique des 10 000 pas, vous savez d'où ça vient les 10 000 pas? Parce que c'est même marqué au ministère maintenant, tout ça, c'est un club de marche japonais. C'est un club de marche japonais qui fait 10 000 pas par jour, c'est parti de là. Je ne sais pas comment ça s'est propagé, mais ça s'est propagé. Aujourd'hui, il faut faire 10 000 pas. Il n'y a aucune étude scientifique qui montre qu'il faut faire 10 000 pas. C'est parti d'un truc comme ça. Donc la problématique de contextualisation des technologies, justement, qui nous pousse à tous avoir le même comportement, ça aussi, c'est une vraie problématique. Parce que la liberté, c'est la capacité d'enfreindre les règles. Et c'est extrêmement important, justement, de conserver ça.
Oui, j'aimerais intervenir justement par rapport à cette liberté. Je pense que notre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, bien évidemment. Et je crois que s'occuper de sa propre santé devrait devenir un devoir citoyen.
Oui, mais alors là, vous rentrez... Vous vous occupez de vous, bien sûr, mais encore une fois, on ne va pas vous refuser une prise en charge aux urgences ou ne pas vous soigner parce que finalement vous avez développé un cancer du poumon parce que vous avez fumé toute votre vie 3 paquets par jour. Alors on sait que ça va coûter cher à la sécurité sociale, qu'on augmente le prix du tabac. À la rigueur, pourquoi pas ? Après tout, chacun fait ce qu'il veut et si on veut continuer à payer plus cher le tabac parce qu'on sait que c'est un produit nocif, pourquoi pas ? Mais alors, soit on dit que le tabac c'est dangereux, mais c'est difficile. Enfin, je veux dire, d'imposer à quelqu'un un comportement en matière de santé, parce que je pense qu'il y a autant de comportements que d'humains. Enfin, juridiquement, je ne vois pas comment on peut le traduire, sauf à restreindre beaucoup trop les libertés individuelles. Et là, à mon avis, c'est franchir un palier qui serait beaucoup trop dangereux.
Je suis complètement d'accord, mais du coup, j'insiste vraiment sur le fait que la responsabilité, justement, c'est reconnaître une faute. Et de toute façon, notre système de sécurité sociale aujourd'hui ne l'envisage pas du tout. Vous êtes fumeur, vous avez un cancer du poumon, vous ressortez, vous refumez, vous êtes réhospitalisé. Bon, bah jusqu'à ce que vous serez jusqu'à ce que mort s'en suive, vous serez toujours pris en charge par l'hôpital. Personne va vous refuser. Ce serait même une faute professionnelle. Mais en revanche, la responsabilisation, c'est un mécanisme qui tend à faire prendre conscience qu'on peut agir et à rendre responsable, mais plus sur un sens moral. Et déjà, en fait, les taxes sur les paquets de cigarettes, c'est de la responsabilisation. C'est de la responsabilisation pour dire, bon, bah, ça coûte cher à la sécurité sociale. T'as envie de fumer? Fume! Fume! T'as envie de bousiller tes poumons? Pouf! On s'en fiche, tu serais toujours pris en charge, indemnisé ou autre. En revanche, faut que t'en aies conscience et ta prise de conscience passe par des taxes. Et donc, ça c'est déjà de la responsabilisation et c'est et je pense que c'est là où c'est intéressant de voir où est-ce que se situe la limite justement entre et c'est ce qui illustre je trouve les échanges ce qui sont là, où se trouve la limite entre responsabilisation et responsabilité et où est-ce que nous dans notre système bien souvent on s'inspire des systèmes étrangers et parfois faut quand même conserver notre propre entité, savoir pourquoi on a fait des choix législatif, à un moment dans l'histoire, etc. Et donc, voir ce qui se fait aujourd'hui dans d'autres systèmes, ce que nous, on a fait comme choix à un moment, et se poser la question, on a un système qui évolue quand même beaucoup de soins, et jusqu'où on est prêt à ce qu'il évolue, et dans quel sens? Et jusqu'où on va tracer la limite?
Oui, et puis pour améliorer l'état de santé et que chacun prenne soin de lui, il faut améliorer l'éducation. Ça a été clairement montré dans toutes les études. Alors, pas seulement l'éducation à la santé, c'est globalement l'éducation. C'est très clair, hein, le niveau de santé est lié à l'éducation.
Et puis, une réflexion, ce que vous faites en grande majorité du droit, posez-vous toujours la question, à chaque fois qu'on met quelque chose dans le droit, on le retire de la morale. Et on peut enfreindre les lois, on peut plus difficilement enfreindre sa propre morale. Donc, je crois beaucoup plus en l'éducation pour améliorer la société qu'à tout légiférer.
Moi, j'ai une petite question. Par rapport à un sujet d'actualité qui est l'IVG, qui est malheureusement encore d'actualité, sur les clauses de conscience, qu'en est-il de la responsabilité des médecins qui font valoir leurs clauses de conscience alors que on peut dire que de manière générale, l'IVG rentre dans le secteur public. Donc ça rentre entre responsabilité civile et responsabilité de l'éthique. Donc je vous pose la question.
Mais écoutez, moi, en tant que médecin, ce que je sais, c'est que je ne suis jamais obligée de faire quelque chose sauf en situation d'urgence. Ou alors renvoyer le patient vers une personne compétente. Donc je pense qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à faire un geste qui est... en plus jamais en urgence, si ça va à l'encontre de ses convictions. Le seul, à ma connaissance, qui n'a pas de droit à la clause de conviction, c'est le directeur de l'hôpital public où se fait l'IVG. Mais je pense que c'est normal que... Déjà, Je pense qu'en tant que professionnel, on ne va pas s'orienter vers des services où il y a des choses qui ne sont pas en accord avec ce qu'on fait. Mais je trouve que c'est normal qu'on ait cette clause de conscience. Ça peut être pour tout à fait autre chose. Hein. C'est pas spécifiquement l'IVG.
Mais sur un territoire où l'ensemble de l'offre publique l'interdirait par clause de conscience, est-ce qu'il n'y a pas une défaillance de l'État ?
Oui, évidemment, bien sûr. Il ne faut pas que la clause de conscience d'un médecin conduise à empêcher toute femme de faire une IVG. Mais sur toutes ces questions éthiques, c'est toujours très difficile de juger. Il y a des personnes qui sont contre l'IVG, d'autres qui sont pour. Chacun, après tout, a le droit. Mais là où il faut faire très attention... Je ne parle pas de l'IVG, mais je rebondis un petit peu sur ce que vous avez dit lors de la dernière intervention, c'est sur l'éthique. Qui décide de la morale, finalement ? Le Conseil national d'éthique, le professeur Memeto est parti, ça c'est sa grande marotte, mais on a l'impression actuellement que le législateur suit aveuglément le Conseil national d'éthique. Ce que dit le Conseil national d'éthique, le législateur va pas toujours le suivre, mais en tout cas, va en prendre grand soin. Et attention, le législateur qui osera aller contre le Conseil national d'éthique. Attention à ce qu'on met dans le Conseil national d'éthique, qui en fait partie. Il faut pas. On est en démocratie, c'est nous qui décidons à la fin. Ça fait encore très gilet jaune, je suis désolé. Mais c'est nous qui décidons à la fin. Qu'il y ait un Conseil national d'éthique avec des personnes éminentes qui réfléchissent à tout ça, très bien, mais il ne faut absolument pas que ce soit une excuse pour que le législateur s'empêche toute réflexion. L'éthique, c'est la géométrie variable. Quand j'entends ces enfants qui auraient été génétiquement modifiés pour éviter le virus du sida, nous, ça nous semble complètement inconcevable. Je me pose la question maintenant, si j'habitais, moi, dans un pays d'Afrique noire où 20 ou 30% de la population est atteinte du virus du sida, est-ce que là, d'un seul coup, ça devient éthiquement complètement inconcevable ? Ça va dépendre. Peut-être qu'effectivement, dans un pays d'Afrique noire, ça sera peut-être pas complètement stupide et complètement immoral de protéger les enfants contre une contamination par le virus du sida en faisant une petite modification génétique. Nous, chez nous, on regarde le génome humain pour savoir si on fait un avortement en cas de trisomie. Dans certains pays, ce serait peut-être complètement inconcevable. Après, voilà, c'est une question aussi d'appréciation et c'est à nous, citoyens, de prendre à bas-le-corps ces questions et de surtout pas les laisser aux fameux spécialistes, même si certains ont un avis très éclairé, mais chacun a son avis, il est très intéressant.
Juste pour vous répondre, je suis tout à fait d'accord, mais on a quand même la grande chance de faire les états généraux de la bioéthique, et malgré tout ce qui a été dit, que c'était mal fait et tout, je trouve que ça a quand même été l'occasion, pour peu de personnes, parce que peu se sont exprimées, justement de s'exprimer.
Juste pour rebondir très rapidement sur la réflexion des bébés génétiquement modifiés pour la résistance au sida, je pense que là où il y a un problème éthique en fait sur cette manipulation, c'est pas uniquement sur ce qu'elle va apporter, c'est sur ce qui est caché en fait, parce que cette mutation, enfin ce gène qu'on va retirer, on ne sait pas ce que ça fait forcément sur le génome de ces enfants-là quand on le retire.
Moi, je ne sais pas du tout. Je sais pas. Peut-être que c'est très dangereux, j'en sais rien. Je dis juste que dans certains pays, si par ailleurs on arrivait à démontrer qu'il n'y avait aucun danger, peut-être qu'on pourrait plus ou moins bien l'accepter. Mais peut-être que c'est dangereux et que c'est complètement inconcevable là-dessus.
Mais j'entends aussi votre remarque sur le contexte de la population qui peut être concernée.
Il n'y a pas de réponse claire. J'en sais rien.
Donc une dernière question.
Je vous remercie. J'ai bien compris que monsieur Abran n'était pas très favorable au dossier médical partagé. Et je peux le comprendre pour l'État. Et voilà. Alors, ma question est la suivante pour revenir au thème de la journée, la responsabilisation à l'épreuve des nouvelles technologies en matière de la santé. Est-ce que néanmoins la création d'un dossier médical partagé électronique et consultable par la web n'est pas un outil important de responsabilisation des patients pour éviter le nomadisme, des examens redondants, etc., etc.
Alors, sans même le dossier médical, l'assurance maladie pourrait, elle a toutes les données là-dessus. Je suis pas contre le principe même, je suis même totalement d'accord. À chaque fois qu'on va faire des projets d'innovation, c'est l'une des briques qu'il faudrait à chaque fois. Après, c'est juste la façon dont il a été construit, c'est-à-dire, au lieu d'être un système qui va interroger tous les autres, c'est un système dans lequel on a tout mis. Et donc, pour les hackers, c'est juste une mine d'or, c'est fantastique. Donc, c'est juste la façon dont il est construit. Sur le principe, je suis totalement d'accord. Et après, l'autre problématique qu'on va avoir, parce qu'il y a beaucoup de choses sur l'empowerment de patients et tout ça, et on travaille beaucoup sur ces thématiques, et notamment avec des gens au Québec qui ont travaillé en fait sur le transfert expérientiel, qu'on crée en fait ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle de Montréal. En fait, ils sont simplement partis d'un constat. Un patient passe une dizaine d'heures avec ses professionnels de santé par an, même chronique. Il passe des milliers d'heures à s'occuper de soi-même. Donc en fait, son premier professionnel de santé, c'est lui-même. Donc l'éducation thérapeutique, le transfert expérientiel et tout ça, c'est très intéressant, mais le transfert expérientiel dans les deux sens. C'est-à-dire lui apprend aux professionnels de santé ce que c'est concrètement que de vivre avec cette maladie pour améliorer leur façon d'approcher les choses. Mais après, il y a ces patients qui vont donc devenir experts. Et puis, il y a tous les autres, en fait. Moi, par exemple, depuis que je travaille pour l'hôpital, dès que quelqu'un a une maladie, on m'appelle. Dès que quelqu'un a un examen avec des chiffres qui sortent des barèmes, on m'appelle. C'est-à-dire que c'est extrêmement anxiogène. Et donner de la donnée, c'est pas suffisant. Il faut donner minimum de l'information, voire de la connaissance, mais surtout, en fait, des call to action. C'est-à-dire, ce qui est important, quand vous renvoyez de la donnée, en fait, enfin, quand vous renvoyez un feedback à un patient, c'est qu'il puisse s'en saisir pour agir, en fait. Si vous lui envoyez juste de la donnée comme ça, malheureusement, qu'est-ce qu'il va en faire? S'il n'est pas capable de l'interpréter, de la contextualiser, de la transformer en connaissance, il ne va rien faire. Donc le dossier médical partagé, en plus, la problématique, c'est qu'en fait, on y stocke toutes les données, ce qui fait que quand vous voulez retrouver une information, il faut tout lire, et on est sur de la donnée qui est complexe, on est sur du texte, donc les algorithmes sont en plus pas forcément très bons là-dessus. Donc vous voyez, on a plein de choses à disposition, ok. Mais la façon dont c'est conçu, est-ce que c'est utilisable? Est-ce qu'on peut vraiment en faire quelque chose? Le concept, je suis totalement d'accord. La mise en application et les possibilités qu'il offre, malheureusement, je trouve qu'il offre un dixième, même pas, de ce qu'il pourrait offrir. Et la façon dont il est conçu, d'un point de vue technologique, il est extrêmement dangereux pour les hackers.